Voilà, bonjour à chacun. Pour ce culte, c'est vrai que c'est un culte jeune, mais je vais l'étendre à chacun de nous. Il y a quelqu'un qui a dit un jour que les derniers mots d'une personne sur Terre sont des mots qui sont durables. Que ce soit des mots négatifs, que ce soit des mots positifs, c'est quelque chose qui va durer dans le temps parce que c'est des mots qui pèsent, qui ont quelque chose d'important dans nos vies. Et si on a la possibilité de choisir les mots qu'on aimerait donner avant de quitter le monde, je pense que la plupart d'entre nous, on choisirait soigneusement ce qu'on dirait, ce qu'on prononcerait, avec cette pensée que ça a un effet durable. Et le Nouveau Testament nous livre beaucoup de ces dernières paroles. Alors, il n'y a pas que le Nouveau, hein, l'Ancien Testament aussi. Il y a Moïse qui parle à Josué. Il y a des tonnes d'exemples dans la parole de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, il y a quelques-unes de ces dernières paroles de Jésus avant son ascension au ciel, dont entre autres Matthieu 28. C'est des paroles qu'il prononce et qui sont censées laisser une impression durable dans nos vies, dans nos cœurs, et pas simplement avoir eu quelque chose de durable, mais quelque chose qui va produire un impact, qui va nous amener à pratiquer, à faire quelque chose avec ces paroles. Juste de les entendre, c'est comme si on dit « ouais, ben c'est important » et puis voilà quoi. Non, c'est quelque chose qu'on entend et puis on va le pratiquer parce que c'est quelque chose de super important. Et au centre de ces dernières paroles de Jésus dans Matthieu 28, il y a le commandement qui dit « faites des disciples de toutes les nations ». Et c'est là-dessus que j'aimerais quelque part, en pensant à vous les jeunes qui continuez votre vie de foi, à nous qu'on continue notre vie de foi ici, aux jeunes qui grandissent dans leur vie de foi ici, à ceux qui se joignent, et puis j'aimerais juste accueillir Fabrice, c'est juste, hein, Patrice, excuse-moi, voilà, qui est pour la première fois parmi nous. Il y en a peut-être d'autres derrière, mais ici, c'est pas la première fois ? Ah d'accord, ok, alors c'est moi qui reviens, donc bienvenue tout de même. Mais voilà, bon, donc ce thème de faire des disciples, il est là, et Jésus passe tous ses derniers moments sur terre avec ses disciples, en les exhortant à faire des disciples. Et ce n'est pas quelque chose qui s'arrête simplement parce qu'on en a fait et puis ils continuent leur chemin, soit parce que, voilà, ils vont ailleurs, Dieu les conduit ailleurs, ou on déménage et puis on part ailleurs. Il y a quelque chose qui est défini par Christ comme une priorité, comme pour toute personne qui vient à croire en lui. Et ce matin, ce message, ça sera court, mais j'aimerais qu'on célèbre l'œuvre de Dieu dans nos vies, dans la vie des jeunes, mais aussi dans la nôtre. En tant que plus âgés, que les plus âgés, que ceux qui sont entre deux, etc. Et voilà, donc ces derniers mots, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va faire? Alors je vais mettre un texte, on va se baser sur un texte de Paul à Timothée. C'est juste un texte, alors si tu peux mettre la première, voilà, merci beaucoup. J'aimerais lire simplement ce texte de Paul qui nous montre comment il a fait, comment concrètement il a pratiqué faire des disciples avec Timothée. Et au chapitre 2 Timothée 3, pardon, le verset 10, il parle à Timothée, il lui dit cela. « Pour toi, Timothée, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité ou mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelles persécutions n'ai-je pas supportées? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. » Donc on va juste s'arrêter jusque-là par rapport à cela. Trois, peut-être, points que j'aimerais relever de ce texte qui nous parle de ce qu'on fait, de ce qu'on a fait, de ce qu'on a vécu ensemble, de ce que vous prenez, j'espère, et que vous continuez de faire et de pratiquer. Le premier, c'est de revenir au premier amour. Le premier, c'est l'enseignement. Mais l'enseignement, ce n'est pas juste un truc théologique, un truc de la tête. c'est la première chose qu'il mentionne est que Timothée a suivi son enseignement. Et je crois que c'est quelque chose, vous avez grandi toute la jeunesse, et puis les jeunes qui sont avec nous, vous grandissez, et on grandit tous en fait dans l'enseignement. Et l'enseignement, ce n'est pas juste quelqu'un qui vous parle. L'enseignement, si tu peux mettre la deuxième slide, s'il te plaît. L'enseignement, c'est de se plonger là-dedans. Pas seulement tout seul, mais en groupe, ensemble. Ça, c'est les groupes que vous avez à Nyon et un peu partout, hein, avec ICF. Mais il y a aussi ce côté pour nous de nous encourager à rester ancrés dans la parole. Et pas seulement à entendre, on a besoin d'entendre, on a besoin d'être enseigné, mais de laisser l'autorité de la parole parler dans nos vies. De le laisser, en fait, croître en nous, de nous laisser, de nous encourager, de nous défier, de nous aiguiser comme le fer, hein, les uns les autres, au travers de cette parole. Et c'est quelque chose que j'ai l'impression, on est dans un temps aussi, dans le monde, où on doit revenir à ça. Si vous pensez à l'Afghanistan, maintenant, ils n'ont même plus, la plupart, la parole écrite. Parce qu'ils se font prendre leur Bible, ils se font prendre tout ce qu'ils ont, en gros, avec ce qui se passe maintenant. Et l'importance, non seulement de l'étudier et de l'écouter, mais de la lire, de l'apprendre, de la mémoriser, d'en faire quelque chose qui devient nôtre à nous. Et je crois que ça, c'est un des premiers points que fait Timothée, en fait, c'est qu'il a suivi l'enseignement de Paul. Alors, c'est un enseignement sur les Écritures, sur la parole. Et je crois que pour moi, une des meilleures choses qui m'est arrivée dans ma vie, en fait, c'est de pouvoir, en fait, se mettre autour d'un texte et puis avec d'autres. Et puis laisser le texte parler, laisser le texte m'interpeller, dire, mais qu'est-ce qui me parle? Qu'est-ce qui m'apprend sur Dieu, sur moi, sur la terre, sur l'homme, sur la vie? Est-ce qu'il y a des choses que je peux pratiquer, des choses que le texte m'appelle à m'engager dedans, à me repentir, à faire des pas de foi, à grandir dans certaines choses? Et ça, je crois que c'est quelque chose que je voulais nous encourager tous, c'est en fait de continuer à nous plonger dans cette parole. Pas juste le dimanche matin quand on vient et puis on n'ouvre peut-être même pas la Bible, on l'écoute, on l'entend de celui qui parle devant, mais vraiment d'aller dedans soi-même, en groupe, individuellement, et de voir qu'est-ce que cette parole, cette écriture qui est inspirée par Dieu, utile pour chacun de nous, pour nous équiper, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Avec cette première œuvre étant de connaître et d'aimer Dieu aussi au travers de sa parole. Et là, il y a peut-être un encouragement à, voilà, est-ce qu'il y a un pas à faire pour moi? Là, je vous adresse individuellement, que ce soit de manière hebdomadaire, bi-hebdomadaire, etc., ou journalière, de dire, mais comment est-ce que je vais dans cette parole? Comment est-ce que je la laisse m'impacter, me travailler, me changer, me transformer? Donc ça, c'est le premier point. Si tu peux mettre le deuxième, c'est vivre l'évangile. Juste d'être enseigné, ça suffit pas. Il faut pratiquer, il faut vivre l'évangile. Et là-dedans, c'est de considérer l'évangile qu'on enseigne à nos disciples comme le soleil. Ça, c'est l'évangile, c'est le soleil. Et puis, notre conduite, c'est comme les rayons du soleil. D'accord? Ça sort de ça, ça sort de ce temps qu'on passe dans la parole. Et puis, on est ces rayons du soleil sur la terre, auprès des gens, dans nos vies, dans nos familles, auprès des enfants, dans la communauté, etc. Et Paul, ici, il parle pas seulement de l'enseignement, il parle de la conduite, il parle des projets, de ses résolutions, il parle de sa foi, il parle de la patience, il parle de l'amour, de la persévérance que Timothée l'a vu vivre. Et j'espère qu'on peut tous dire des gens qui nous ont discipulés, qui nous ont enseignés dans la foi, qu'on les a vus vivre ce qu'ils ont enseigné, ce qu'ils ont parlé, ce qu'ils ont partagé. C'est ça qui va amener le changement dans nos vies. Ce n'est pas juste l'enseignement. On a besoin de l'enseignement. C'est le premier point. C'est la première chose que Paul dit. Mais on a besoin de voir la mise en pratique, la mise en œuvre de cette parole dans la vie de ceux qui nous enseignent. Et puis, ben, vous êtes aussi à ce niveau-là. Vous avez eu cette grandeur de foi, elle a grandi, Dieu l'a fait grandir, vous avez vu des choses. Il y a peut-être des choses qui vous ont déçu, chez ceux qui vous ont enseigné, il y a peut-être des questions, vous avez, on en a tous, de ne pas juger ces gens-là, prier pour eux, et puis essayer de ne pas faire de nouveau les mêmes erreurs. De vraiment apprendre à pratiquer, de s'aiguiser les uns les autres pour vivre l'Évangile. Et puis là, il met des mots qui sont forts. Hein. C'est notre conduite, c'est nos résolutions, c'est notre foi, c'est notre patience, c'est notre amour, c'est notre persévérance. Waouh, il y en a un paquet. Hein. Et j'aime beaucoup, beaucoup Paul parce qu'il est tellement pratique, en fait. Il dit, mais tu m'as vu, en fait, là-dedans, dans toutes ces choses-là. Fais la même chose. Tu m'as vu là-dedans. Ben, continue, grandis là-dedans. Et ça s'adresse autant à vous qui continuez votre cheminement avec Dieu qu'à nous, qu'on le continue ici. C'est pour tout le monde. Notre mode de vie devrait toujours être une invitation vers le haut ou une invitation vers Jésus pour ceux qui nous entourent. Notre pratique devrait amener nos disciples pas à voir les rayons du soleil, mais à voir le soleil, à voir cette parole, à voir notre Dieu, parce qu'ils ont été attirés par la beauté de ces rayons. Et je sais pas, ici on est dans un endroit tellement génial, surtout quand il fait un peu nuageux comme ces temps, ou c'est que le soir, quand il y a le soleil qui se couche et vous revenez depuis Lausanne, vous avez des couchers de soleil où il y a juste ces rayons qui sortent, puis vous dites, waouh, mais ces rayons, ils viennent de quelque part. Le rayon en lui-même, voilà, c'est le soleil qui est derrière qui est important. Et je crois que nos vies doivent refléter aussi cela. Et ça peut être entendu aussi comme peut-être une réprimande dans nos vies, pour le contraste des fois qu'on a entre ce qu'on enseigne et puis la pratique dans nos vies. Parce que des fois, ce qu'on vit ne reflète pas toujours ce côté de ce qu'on enseigne non plus. Et je crois que là, on a peut-être à demander pardon, à se repentir dans nos vies, et ça nous concerne tous. La pratique de vivre l'Évangile, ça doit être une conséquence directe de l'enseignement et de la doctrine. Tu peux passer à la suivante. La dernière chose que Paul dit ici, et c'est des messages qu'on entend très très peu en fait, c'est qu'il dit « être prêt à souffrir ». Tu m'as vu, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, mes constances, ma persécution et mes souffrances. Mes persécutions, il ne parle même pas d'une, il parle de ses persécutions, parce qu'il en a eu pas mal. Après, il en mentionne quelques-unes, hein. Il y a eu Antioche, il y a eu Icône, il y a eu Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supporté ? Puis là, ben, je vous laisse aller dans la parole pour aller voir qu'est-ce qu'il a vécu. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses. Mais c'est peut-être un des endroits où c'est qu'on n'aime pas trop aller. C'est un des endroits où on enseigne très peu dessus, en fait. On a un peu cet évangile de la prospérité, où c'est que tout va bien, tout est extraordinaire, tout est fabuleux. Mais en fait, si on marche et qu'on vit l'évangile, qu'on vit ce que la parole nous dit, on va arriver là de toute façon. Et aujourd'hui, on doit se préparer de plus en plus ici en Europe, parce que ça vient à vitesse grand V. Paul poursuit donc en mentionnant ses persécutions, ses souffrances qu'il a endurées pour l'amour de l'Évangile. C'est pas parce qu'il aime souffrir, c'est à cause de l'amour de Dieu, à cause de l'amour de sa parole. Il a été lapidé, il a été laissé pour mort à Lystre, entre autres, il a vécu la persécution dans d'autres villes. Paul savait que c'était une partie de la vie chrétienne qui était importante à connaître pour Timothée. Et ça, c'est peut-être quelque chose, pour vous les jeunes, qu'on n'a pas démontré, qu'on a peu enseigné, ou en tout cas pas assez. Et je crois qu'on a demandé pardon aussi, à ce niveau-là, parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas prêt, dans beaucoup de vies chrétiennes, à vivre cette partie de la foi. Mais elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là. Paul savait que Timothée serait confronté à la persécution dans sa vie, pour ce qu'il croyait, mais aussi pour ce qu'il vivait, et qu'il aurait besoin de se souvenir des paroles de son père spirituel, qui dit « J'ai enduré, et le Seigneur m'a sauvé de toutes ces épreuves. » Et le sauver, ce n'est pas toujours « je suis dehors ». Il y a des gens, ils sont sauvés de cette manière-là. Là, il était toujours en vie, Paul. Il a fait pas mal de prison quand même. Hein. Il y en a d'autres, ils sont sauvés parce qu'ils vivent la mort. Mais ils sont sauvés quand même. Et là-dedans, il y a quelque chose qu'on a à apprendre, qu'on a à découvrir, qu'on a à, et moi, je vous encourage à aller à la rencontre des réfugiés, aller à la rencontre des gens qui ont vécu la persécution. Ils ont tellement à nous apprendre, tellement à nous apprendre. C'est un vrai privilège d'aller à leur rencontre, pas d'attendre qu'ils viennent vers nous, mais d'aller vers eux, de faire l'effort pour demander comment vous avez vécu, qu'est-ce qu'il y a qui vous fait tenir dans ces situations. Et moi, je suis toujours ébahi. Ça revient toujours, toujours, toujours à la même chose. L'espérance qu'on a en Christ. L'espérance de son retour. Quand on est dans cette parole, quand on est en Christ, qu'on vit l'Évangile, on est cette lumière dans le monde, on est ce sel pour la terre. Puis en même temps, il y a une faim, une soif de sa justice à lui, où on va se tenir pour lui, on va parler, on va être là, on va, même qu'il y a la persécution, on va tenir ferme. Et le fait de payer le prix de l'Évangile, d'être prêt à souffrir, ça fait une chose incroyable. On imagine que ça détourne en fait les disciples de la foi. Mais c'est le contraire que ça fait. Ça les renforce, ça leur apprend à mettre leur espoir en Christ plutôt que dans les conforts du monde. Et ça, je peux vous dire, avec ce qui se passe maintenant, alors on parle de l'Afghanistan, mais il y a plein d'autres pays, hein. Vous mettez l'Irak, vous mettez l'Iran, vous mettez plein d'autres ces pays, de voir combien de ces gens ont une foi qui est renforcée au travers de la persécution, au travers de la souffrance. C'est juste incroyable. Et pour moi, c'est vraiment un privilège de pouvoir cheminer avec certaines de ces personnes et d'apprendre d'eux. Je crois que j'apprends plus d'eux que ce que moi je leur donne. Ils s'en rendent peut-être pas compte. Mais... Donc, j'aimerais vraiment qu'on prie pour que ça nous incite à envisager de marcher ce message avec quelqu'un, de discipliner dans l'obéissance au Christ, de faire des disciples, en fait, pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour la nôtre, ce n'est pas pour qu'on ait moins de monde ou plus de monde ou j'en sais rien trop quoi. C'est pour voir des personnes venir à la foi, c'est pour voir des personnes continuer, grandir, avancer dans leur cheminement et être ces lumières, être malgré le prix qui est à payer. Et dans 1 Timothée, et je finis avec ça, 1 Timothée, je crois que c'est 4, j'ai plus marqué, si tu peux mettre la dernière, ouais, voilà, 4, 12 et 13. Je finis juste avec ces deux versets. Ça, c'est avant 2 Timothée. Là, je vous ai dit ce qu'il a dit à Timothée, d'accord ? Mais dans le verset, dans le chapitre 4 de la première lettre, il dit en fait exactement la même chose. Que personne ne méprise ta jeunesse. Ça, c'est quand Timothée marchait encore avec lui. Il dit, mais que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne méprise la vôtre. D'accord ? Et puis, voilà ce qu'il lui dit comme encouragement. Il lui dit, sois un modèle pour les fidèles en parole, dans l'enseignement, hein, en conduite, en amour, en esprit, en foi, en pureté. Waouh ! Ça vous encourage ? Ça, c'est ce qu'on a devant nous. C'est ce à quoi Dieu nous appelle, c'est ce à quoi Dieu vous appelle, c'est ce à quoi Dieu nous appelle, qui restons ici, qui allons plus loin, qui bougeons, qui partons en Lyon, qui, etc., etc. D'accord ? Et là-dedans, je crois que c'est l'encouragement que j'aimerais vous laisser, que j'aimerais nous laisser, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Mais là-dedans, sois un modèle, sois un modèle. Ça ne suffit pas d'être enseigné. On doit vivre cet évangile, quoi que ça coûte. Amen.